Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima, Aouta.
Une signature d'accord intervient ce mardi en marge de la COP 26 à Glasgow entre la RDC et la Grande-Bretagne. C'est un accord d'un financement de 500 millions de dollars américains étalé sur 5 ans. C'est pour aider la RDC qui a pris l'engagement de maintenir le couvert forestier, nous dira Augustin Poyi dans ce journal. Il n'y a pas eu reprise de cours hier lundi dans plusieurs écoles publiques qui étaient en grève à Kinshasa. Des parents parfois très énervés étaient contraints de ramener leurs enfants à la maison. À la base, la divergence entre les enseignants et leurs délégués aux négociations avec le gouvernement qui s'entoure. Enfin, notre invité dans ce journal, c'est le docteur Jérémy Moindo, responsable de la commission prise en charge médicale dans la riposte de la 13e épidémie d'Ebola qui sévit à Beni. Il nous parlera de l'organisation de la prise en charge des malades qui sont suivis dans cette partie du pays. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, cette information, interdiction formelle de toute importation, commercialisation et consommation des produits jus de pomme de marque Cérès, conditionné entre le 14 et le 30 juin 2021. La décision est prise par le ministre du Commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa se base sur l'alerte du 11 octobre dernier du COMESA, déclarant impropre à la consommation plusieurs lots de produits jus de pomme de marque Cérès fabriqués en Afrique du Sud, commercialisés dans 7 pays d'Afrique, dont la RDC. On reproche à ces produits des teneurs élevées en patuline, une mycotoxine nocive à la santé que l'on retrouve généralement dans certaines moisissures. Si vous voulez en savoir davantage sur les produits jus de pomme Cérès interdits et leur numéro d'identification en carton ou bouteille, rendez-vous sur notre site www.radiocapi.net. Le communiqué du ministère du Commerce extérieur donne tous ces détails. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, 500 millions de dollars américains, c'est le montant global d'un accord qui sera signé ce mardi 2 novembre à Glasgow, en Écosse, en marge de la COP 26, entre le gouvernement de la RDC, représenté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, représentée par le premier ministre britannique, Boris Johnson. Nouvelle annoncée hier lundi 1er novembre, ici à Kinshasa, par Augustin Poyi, expert technique au cabinet du ministre des Finances. Il s'exprimait ainsi lors de la présentation des termes de référence de la négociation de ce partenariat. Augustin Poyi le dit à Paul Matendo.
La RDC a pris des engagements, des actions concrètes, des priorités qu'elle s'impose, mais en contrepartie de l'atteinte de ses objectifs, de ses jalons, elle reçoit un financement de l'ordre de 500 millions pour la période de 5 ans qui viennent. Donc c'est en raison de 100 millions de dollars par an, alors que dans le premier partenariat, qui a duré de 2016 à 2020, c'était 40 millions par an pour une enveloppe globale de 200 millions pour la période de 5 ans. Et donc, avec cette enveloppe, la RDC va avancer vers la réalisation de ses engagements qui vont dans le sens de maintenir le couvert forestier, de gérer les impacts que les différents secteurs peuvent avoir sur les forêts tout en apportant une réponse consolidée au moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts.
Et puis, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde-Kyenge s'engage à appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité dans les actions de son gouvernement. C'était au cours de la table ronde organisée hier 1er novembre par le ministère du Genre, Famille, Femmes et Enfants dans le cadre du 21e anniversaire de la résolution 1325. Ce plan d'action est centré sur 4 axes prioritaires dont la participation, la prévention, la résolution des conflits et les relèvements. Billy Van Lutumba.
Cette table ronde est organisée dans le cadre du 21e anniversaire de la dite résolution en vue de dresser l'état des lieux de sa mise en œuvre en République démocratique du Congo. Une occasion pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, de soulever la problématique de l'alignement et l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'action de la deuxième génération de la résolution 1325.
Le travail à faire est immense et nécessite l'implication de tous les acteurs engagés dans la recherche de la paix et de la sécurité, aussi bien bien au niveau national, régional qu'international.
Pour sa part, Jean-Michel Samaloukonde a souligné que cette résolution reste une des priorités de sa politique en ce qui concerne le rôle important que les femmes doivent jouer dans la prévention, le règlement des conflits, la consolidation de la paix, ainsi que dans la reconstruction post-conflit.
Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement d'appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la résolution 13 dans tous les efforts déployés par les uns et les autres pour la prise en compte de la dimension genre dans le processus de résolution pacifique des conflits dans notre pays.
En rapport au plaidoyer de la société civile sur la mise en œuvre de cette résolution, le chef du gouvernement a reconnu que le droit à la paix et à la sécurité constitue l'un des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, homme ou femme.
Autre nouvelle, mesdames et messieurs, le renforcement de la diplomatie parlementaire et le réchauffement des relations bilatérales entre la RDC et le Royaume de Belgique, tel est l'objet de la mission parlementaire belge à Kinshasa, conduite par le ministre d'État André Flahault sur invitation du président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo. La délégation a eu hier, lundi, une séance de travail avec le bureau des deux chambres du Parlement congolais. L'organisation de la grande foire des entrepreneurs qui s'ouvre vendredi à Kinshasa s'est aussi invitée au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre les parlements de deux pays pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. On écoute le ministre belge André Flahault au micro de Michel Kifindangoy.
Nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, parce que tout système démocratique appuie sa base sur les assemblées parlementaires. Et donc il faut voir notre présence comme étant une volonté d'avancer ou d'actualiser un accord et une base qui existe depuis 2012. L'autre élément, nous voulons avoir une multitude de contacts avec un grand nombre de ministres, jusque y compris le contact avec le président de la République, pour effectivement évaluer le chemin parcouru depuis sa première visite en Belgique en 2019 et de voir dans les domaines où on peut aider à accentuer le partenariat, notamment le partenariat entre des start-up et des entrepreneurs ici dans votre pays, l'objet de la conférence vendredi prochain.
Et puis, célébration ce mardi 2 novembre de la Journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Dans son rapport intitulé « Mauvais temps pour la presse en RDC » publié en marge de cette journée, l'ONG Journalistes en danger parle d'au moins 110 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias enregistrés cette année. Près de 3 ans après son accession au pouvoir et en dépit de ses nombreuses promesses faites à la presse, le nouveau pouvoir n'a toujours pas su lancer des signaux forts en faveur de la liberté de la presse. À ce jour, aucune action de grande envergure n'a été prise, ni sur le plan politique, ni sur le plan judiciaire, ni encore sur le plan sécuritaire en faveur de l'exercice du métier de journaliste, écrit JED dans un communiqué de presse. D'autres détails de ce communiqué avec vous, Michel Kifindangoy.
D'après Journalistes en danger, je le cite, plus de la moitié des cas d'atteinte à la liberté de la presse, soit 51%, touchent à la sécurité physique des journalistes. Ils sont constitués des menaces qui précèdent parfois les assassinats, des agressions physiques et des journalistes contraints à vivre dans la clandestinité pour échapper à la mort suite à des menaces des milices ou des militants politiques. Fin de citation. À l'analyse de cette situation actuelle de la liberté de la presse en RDC, JED demande au gouvernement la réforme sans délai du cadre légal répressif actuel, à savoir la loi de 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en consacrant la dépénalisation des délits de presse. JED plaide aussi pour l'adoption de la loi d'accès à l'information qui fera obligation à tous les mandataires publics de publier toutes les informations d'intérêt général. Pour JED, le gouvernement devrait mettre fin aux arrestations des journalistes et aux suspensions arbitraires de médias et mettre en place un mécanisme national de protection des journalistes sans oublier de mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes.
Plusieurs écoles publiques de Kinshasa qui étaient en grève n'ont pas repris les cours hier lundi 1er novembre. Les enseignants ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. Cette reprise de cours restait donc hypothétique hier lundi dans les écoles publiques à cause des divergences entre les enseignants et leurs délégués aux négociations avec le gouvernement Kisantu dans le Congo central. Des parents qui ont amené les enfants le matin dans différentes écoles ont été contraints de les ramener à la maison. Ces parents, Alain Irung, parfois très énervés d'avoir engagé des dépenses alors que les enfants sont parfois renvoyés à partir même de la porte.
Colère, déception, impuissance étaient perceptibles sur les visages des parents dans les écoles où les cours n'ont pas repris. À la Gombe, c'est le cas du collège Boboto, du lycée Bosangani, de Panté et de Listen dans la commune de Ngaliema. Témoignage d'un parent rencontré au collège Boboto.
Malheureusement, il n'y a pas eu cours. Toutes les classes sont restées fermées. Je suis obligée de rentrer avec mon fils. J'ai vu quelques enseignants, oui, que je connais de vue, mais qui sont restés dehors. Bon, ils disent qu'ils doivent attendre les conclusions de Mouelalo.
Les enfants, pour leur part, ne savent à quel sein se vouer. Ils en appellent à l'intervention du chef de l'État.
Je m'appelle Petrina. On n'étudie pas. Si on veut étudier comme ça, on veut nous donner l'horaire. Non, n'élève de ne pas l'horaire, il y a les grèves. N'élève de ne pas l'horaire, il y a les grèves. On n'étudie pas. On demande au monsieur, on va étudier les lundis prochains. On vient les lundis prochains, on n'étudie pas. Il est un président, mais il s'occupe pas de nous.
Par contre, d'autres écoles publiques ont repris les cours. C'est le cas du collège Saint-Cyprien dans la commune de Ngaliema. À l'Athénée de la Gombe, là, le directeur a indiqué que les enseignants n'ont jamais été en grève. Ils disent faire confiance à leurs syndicalistes qui poursuivent les négociations avec le gouvernement.
Par contre, au Nord Kivu, les enseignements ont repris timidement hier lundi dans les écoles publiques, dans la ville de Butembo et dans plusieurs zones du territoire de Lubero. Les grévistes disent suspendre leur mouvement de grève à la suite des négociations entre les bancs syndicales et le gouvernement. Grâce à Mzati.
Cette reprise a été constatée, par exemple, dans la sous-division de l'EPST Njiapanda au nord-ouest du territoire de Lubero. Le secrétaire permanent du CIECO dans cette entité éducative, Kambale Mayani Pembeni, indique que cette reprise fait suite au communiqué de l'intersyndicale suspendant les mouvements de grève en attendant la fin des négociations au niveau national. Cette reprise timide des cours est confirmée par la société civile locale. Du côté du sud du territoire, la situation est la même. Kambere Bonane, président de la société civile de Kirumba, parle d'une présence remarquée des élèves dans des écoles ce lundi. Ce que confirme les porte-parole de la synergie syndicale dans les territoires de Lubero. Lambert Kassere Kassasi indique que la grève est suspendue juste pour un mois et une évaluation se fera chaque semaine. Cependant, dans la sous-division de l'EPC Kitsombiro, toujours dans la partie sud, la Confédération démocratique du travail, une autre structure syndicale, dit poursuivre la grève jusqu'à la fin des négociations, nous a confié son secrétaire permanent, Bozi Kakule. Signalons que cette reprise timide est constatée également dans des écoles publiques de Butembo et celles du réseau catholique. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
À Kalemie, dans le Tanganyika, on a également constaté la reprise timide des cours hier lundi. En tout cas, la rentrée scolaire reste moins effective après la grève des enseignants. Françoise Avemibé est passée dans un complexe scolaire de la place, une école du secteur public. Je vous propose son reportage.
Nous sommes ce lundi dans la cour du complexe scolaire du lac. Il est 11h40. Nous rencontrons deux élèves de la classe des 6e année des humanités littéraires dans la cour. Le premier que nous abordons s'appelle Félix Imorani. Félix est content de pouvoir entrer à son école, l'Institut du Lac.
Moi, je me sens bien aujourd'hui parce qu'on avait resté assez longtemps à la maison sans quoi faire. Mais aujourd'hui, je suis heureux parce que je suis retourné au banc de l'école.
Une joie que partage Elisabeth Isengeno, aussi finaliste que Félix.
Je suis bien parce qu'on a déjà commencé à étudier.
La reprise des activités scolaires à l'Institut du Lac survient, comme partout ailleurs dans la ville des Kalemie, après une période d'inactivité à cause de la grève des enseignants. Le préfet des études, qui nous reçoit dans son bureau, Benezet Mbavu, ne cache pas sa satisfaction.
Les cours ont repris, les parents, et nous leur demandons d'envoyer les enfants, nous avons repris l'écolier.
Qu'est-ce que ça vous fait que lorsque vous voyez maintenant les enfants retourner à l'école?
C'est la joie. Après un mois d'interruption, la cour de l'école est vraiment animée et la vie reprend.
Alors qu'un parent, rencontré sur les lieux, s'est dit lui aussi satisfait de revoir les enfants reprendre le chemin de l'école. Narcisse Famba.
Nous disons merci au chef de l'État, nous disons merci au gouvernement Samal Koundé.
De l'Institut du Lac. François Diabimbe, Radio Kapi.
Alors, les enseignants des écoles conventionnelles catholiques de Lubumbashi, eux, décident de reprendre la craie plus tôt ce mardi matin. Décision prise hier lundi au cours de leur assemblée extraordinaire. Ils justifient leur position par rapport aux avancées enregistrées aux négociations qui se tiennent dans le Congo central. De ce fait, ils appellent tous les enseignants de ce réseau d'être présents ce mardi à leur poste et aux parents d'envoyer les enfants à l'école. On écoute Kadi Ilunga, président du syndicat national des enseignants, au micro de Jean Gandou.
les enseignants de la ville de Lubumbashi se félicitent du fait que le ministre a fait une marche en arrière malgré ses intimidations et décide de suspendre la grève en attendant les résolutions qui sortiront des négociations qui sont en cours dans le Congo central. Demandons à tous les enseignants de la ville de Lubumbashi, du réseau catholique, de répondre présent au service à partir de 7h, aux parents d'élèves, aux gens dans les écoles conventionnelles catholiques, de les envoyer pour que nous puissions commencer avec eux le travail. Nous faisons foi à nos représentants qui sont aux négociations et nous attendons les résultats pour que nous puissions nous prononcer au regard des promesses faites et au regard aussi de la volonté, la bonne foi que les enseignants ont manifestée. Nous appelons au gouvernement de la République de tenir à ce qu'il vient de redonner comme opportunité afin que leurs enfants ne puissent pas être sur la rue. À tous les parents d'envoyer leurs enfants pour que nous puissions démarrer cette année en beauté.
Actualité internationale.
Le coronavirus a causé la mort de plus de 5 millions de personnes dans le monde entier depuis que le bureau chinois de l'Organisation mondiale de la santé a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Ce bilan prend en compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationale et ne représente qu'une part des décès réellement liés au coronavirus. Selon l'OMS, en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au COVID-19, ce bilan pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui officiellement recensé.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Jérémy Moindo, responsable de la commission prise en charge médicale dans la riposte de la 13e épidémie d'Ebola à Beni. Il s'entretient ici avec Martial Papimoukeba. Suivez.
Docteur Jérémy Moindo, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous sommes au centre de traitement Ebola de Beni. Présentement, vous avez combien de malades ici, dans ce centre?
Au stade actuel, nous soignons des malades suspects et stables et les confirmés. Mais il faut noter que les suspects stables sont en train d'être pris à charge dans les centres d'isolement qui sont en fait disséminés dans les différentes aires de santé dans la zone santé de Beni. Mais ici au CTE, au stade actuel, nous avons des cas qui étaient confirmés. Et d'ici quelques matins, nous allons le décharger comme guéri aux côtés des autres suspects.
Donc leur état de santé évolue très bien?
Ils évoluent très bien. Je viens de faire une petite annonce que d'ici quelques matins, la coordination va devoir organiser leur sortie parce qu'ils s'améliorent du jour au jour.
Et comment s'organise la prise en charge des malades dans ces centres de traitement Ebola de Beni?
Elle est en fait ce qu'on appelle une prise en charge holistique et globale, c'est que on prend en compte tous les aspects de la prise en charge des malades. Ce ne sont pas seulement les aspects médicaux, mais ici on voit aussi d'autres aspects comme les aspects psychologiques, les aspects nutritionnels. Donc tout ça, ça entre en ligne de compte dans la prise en charge des malades d'Ebola. Nous avons les psychologues cliniciens qui interviennent, les nutritionnistes, etc., à côté des médecins, infirmiers et même les aides-soignants, ici considérés comme les gardes malades, ce sont les guéris, parce que vous savez, un malade Ebola ne peut pas être gardé par n'importe qui. Ici, nous utilisons aussi les anciens guéris de l'ancienne épidémie, c'est eux qui sont en train de nous aider comme gardes malades. Bref, la prise en charge, elle est vraiment globale.
Est-ce que la prise en charge des malades adultes est la même que celle des enfants atteints par Ebola?
La prise en charge n'est pas la même. Vous savez, les enfants, c'est une couche assez spécifique. C'est une catégorie de malades assez spécifique. Il en est de même pour les femmes aussi. Imaginez-vous les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Donc, la prise en charge d'un enfant, des femmes enceintes, Ebola, c'est vraiment une prise en charge assez spécifique. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi des structures qui doivent aussi s'occuper de la surveillance de tous ces enfants dépendants des mères confirmées. Je viens d'évoquer ici la crèche qui est à pleine construction où nous allons chaque fois héberger les enfants des mères qui sont soit confirmées ou suivies comme suspectes ici au CTE.
Et en parlant de ces centres de traitement Ebola de Beni, où nous nous retrouvons maintenant. Il a quelle capacité d'accueil?
On avoisine une cinquantaine de lits dans l'ensemble pour la capacité d'accueil de toutes ces structures de prise en charge.
Nous constatons que présentement, il n'y a pas un centre de transit des malades d'Ebola.
La nouvelle approche, elle est dite zonale. La zone de santé est subdivisée en aires de santé, ce sont les aires géographiques et du système de santé, et que bref, c'est dans les centres de santé, dans certains centres de santé, dans certaines heures de santé, là où nous sommes en train de voir comment s'occuper des malades suspects. Donc, il y a des isolements qui sont normés. Les isolements normés, ça signifie des structures dont le circuit n'est pas organisé comme les autres chambres d'hospitalisation ou d'observation. Les isolements normés, ce sont des isolements de structures où on a des chambres individuelles et où il y a un circuit qui permet à ce que le malade, une fois isolé, ne sera plus à contact avec le monde extérieur. Ça signifie qu'on doit avoir des installations hygiéniques dans chacune de ces chambres. Donc, sur l'ensemble centre de santé dans la zone de santé, nous avons 6 isolements normés à côté de l'isolement de l'hôpital général de référence de Beni. Ici, nous citons le centre d'isolement de Kanzulinzuli, le centre d'isolement de Malepe, le centre d'isolement de Mukulia, de Boïka, de Bundi, Sayo. Nous avons aussi ajouté Boutili comme c'est l'aire de santé de Boutili qui est l'épicentre de la maladie. Partout là-bas, nous avons des structures dites isolement, normées. C'est là où les suspects sont pris à charge. C'est dans la condition de confirmation des malades dans l'isolement qu'on peut maintenant voir comment l'acheminer vers les CTE.
Docteur Jérémy Mouindo, merci.
C'est la fin de cette édition du journal coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. Merci pour votre particulière attention.